Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, le 2 mars 1939, après 3 jours de scrutin et moins de 24 heures, Eugenio Pacelli est élu pape sous le nom de Pie XII. Quelques mois après son élection, le successeur de Pie XI est confronté au deuxième plus grand conflit de tous les temps et à l'épanouissement des totalitarismes. Alors, qui fut réellement Pie XII? Quel fut son parcours avant l'accession à cette charge suprême? Depuis 1963 et la fameuse pièce du dramaturge allemand Rolf Horurt, une controverse persiste quant à ces fameux silences sur la politique d'extermination nazie. Pourquoi précisément ces silences? Pour répondre à toutes ces questions, Un jour dans l'histoire reçoit Philippe Chenot. Philippe Chenot, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'Église moderne et contemporaine à l'Université du Latran, à Rome donc. Tous les chemins mènent à Rome. Il y a une certaine distance entre Rome et Paris. Vous l'avez accompli et je vous remercie vivement d'avoir répondu à cette invitation de Canal Académie. Vous êtes historien, vous avez publié divers ouvrages, dont en 2003, cette biographie de Pie XII, Pie XII, diplomate et pasteur, aux éditions du Cerf. Les détracteurs de Pie XII disent parfois que le Vatican cache des choses. Alors, monsieur Chenot, quels sont les documents que vous avez pu utiliser lors de votre travail?
Je voudrais dire d'abord que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que lorsque j'ai commencé à écrire cette biographie, donc en 1999, les archives du Vatican n'étaient ouvertes que jusqu'à la fin du pontificat de Benoît XV dans l'entre-deux-guerres. Et ce sont des documents particulièrement importants pour qui écrit la biographie de Pie XII, parce que comme on le sait et comme nous le verrons sans doute, Eugenio Pacelli, le futur Pie XII, a été nonce en Allemagne de 1917 à 1929 et ensuite comme secrétaire d'État de Pie XI à partir de 1930. C'est lui en quelque sorte qui suit toute la politique allemande du Saint-Siège. Donc l'ouverture de ces archives du Saint-Siège appartient au pape. La règle en la matière était jusqu'à maintenant d'ouvrir les archives pontificat par pontificat. Et donc, la décision qui a été prise de n'ouvrir que les archives qui concernent les rapports avec l'Allemagne était une première, si vous voulez, une entorse à cette règle qui veut que l'on ouvre les archives pontificat par pontificat. Et pour ce qui est des archives de l'ensemble du pontificat de Pie XI, une date a été avancée. C'est celle de l'année 2005. Donc je pense qu'en 2005, les historiens pourront disposer de toutes les archives du pontificat de Pie XI. Pour ce qui concerne les archives du pontificat de Pie XII, je pense qu'il faudra encore attendre un peu, étant donné l'ampleur de la documentation. Et le personnel des archives du Vatican n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir permettre de mettre tous ces documents à la disposition des chercheurs dans un délai raisonnable. Malgré tout, pour ce qui concerne au moins la période de la guerre, nous disposons des 11 précieux volumes des actes et documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale
sur lesquels a travaillé le père Blais, pardon.
Oui, il est d'ailleurs l'un des éditeurs de ces documents avec 3 autres pères jésuites. Et cette commission d'historiens jésuites a été constituée par Paul VI, qui a voulu en quelque sorte, en publiant les documents, ou du moins un choix de documents relatifs donc à la politique du Saint-Siège pendant la guerre, a voulu répondre aux accusations D'une certaine historiographie à la suite de la publication de la pièce de Horurt, Le Vicaire, en 1963, accusation concernant donc les prétendus silences de Pie XII pendant la guerre face à la politique d'extermination des Juifs.
Alors vous, votre démarche justement est spécifique, c'est celle de l'historien, vous vous attachez uniquement aux faits, vous ne tenez pas à rentrer dans cette polémique.
Disons que je m'interdis de juger, de prononcer un jugement moral, si vous voulez. Je m'inscris en faux contre une certaine tendance de l'historiographie, notamment aux États-Unis, vers ce qu'on pourrait appeler une tribunalisation de l'islam et pas d'une autre dans un contexte historique donné, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne, donc le contexte tragique de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, la particularité de votre biographie, je pense, c'est d'accorder une grande importance à la période avant la guerre. Et quand je cherchais un sujet d'émission sur P12, je voulais naturellement m'orienter vers la période 1937-1944. Et à la suite de la lecture de votre biographie, j'ai changé mon fusil d'épaule, si je puis dire, et j'ai intitulé cette émission
l'ensemble de ces familles traditionnellement attachées au service du Saint-Siège et qui avaient été donc anoblies par le pontife régnant. Son grand-père, Marco Antonio Pacelli, arrive à Rome au début, dans les années 20, au début du 19e siècle, et immédiatement il devient avocat à la Rote, puis il entre au service de Pie IX, qui en fera son ministre de l'Intérieur dans les années 50. Et son fils, Filippo Pacelli, le père de Genio, suivra ses traces, puisqu'il deviendra lui aussi avocat caractère personnel, qui permettrait de répondre à ce type d'interrogation. Un témoignage de sa sœur, Elisabetta, qui a donc donné ce témoignage après sa mort, dans le cadre du procès en cours de béatification, elle aurait dit que pour ses frères et sœurs, pour sa famille, il était prêtre depuis toujours. Donc c'est une vocation précoce, et je pense qu'il a pensé très tôt au sacerdoce, et il le dira plus tard comme pape qu'au fond les vocations sacerdotales les plus précoces sont les plus belles, et on pourrait y voir comme une note personnelle dans cette affirmation qu'il fera plus tard.
Il est prêtre à 23 ans, hein, je crois. Hein.
Oui, il est ordonné prêtre en 1899.
C'est au séminaire de l'Apollinaire donc qu'il fait sa formation en théologie.
En théologie d'abord, puis ensuite en droit canon, en droit civil, dans la tradition de l'utro quae iure, c'est-à-dire des deux droits, à la fois le droit canon et le droit civil, qui était une particularité des facultés de l'Apollinaire, où l'on donnait aux futurs prêtres, aux séminaristes, cette double formation à la fois en droit canon, donc le droit de l'Église, et en droit civil, pour mieux les préparer au fond aux problèmes qu'ils auraient à affronter, peut-être comme au service du Saint-Siège plus tard, problème qui touchant au rapport entre l'Église et l'État.
Quel est l'esprit de cette institution du séminaire de l'Apollinaire? Est-ce que le thomisme domine?
Oui, le thomisme est dominant, et sa formation se fera à l'enseigne d'un thomisme assez traditionnel malgré tout. Il faut rappeler que Léon XIII, c'est le pape régnant à l'époque. Eugenio Pacelli grandit dans la Rome de Léon XIII, qui est élu en 1878, donc comme successeur de Pie IX, et qui mourra en 1903. Et l'un de ses gestes, l'archéologie, etc. Et Pacelli, le jeune Pacelli, manifestera une grande curiosité pour ses nouveaux savoirs. Il n'hésitera pas, par exemple, à aller suivre les cours de Monseigneur Duchesne, qui était alors le directeur de l'école française de Rome, et qui donnait des cours privés pour les ecclésiastiques le dimanche au Palais Farnèse. Et Pacelli fut un des auditeurs, des participants assidus de ces cours de Monseigneur Duchesne, qui pourtant n'était pas
en odeur
était
de
considéré,
sainteté.
Oui, en odeur de sainteté, comme moderniste, disons, à l'époque.
Oui, il y a donc des débats au sein de cet enseignement romain. Et on ne va pas parler des origines du Concile Vatican II, mais il y a des tensions, non?
Oui, c'est-à-dire il y avait tout un courant qui n'était pas très favorable à une restauration du thomisme, mais après donc l'élection de Léon XIII, il y a eu une mise au pas et bon, les professeurs, ceux qui n'étaient pas d'accord, ont dû laisser leur chair au fond, et donc tout le monde a dû s'aligner et donc le thomisme devient véritablement à partir de Léon XIII la philosophie officielle de l'Église qu'on enseigne dans les séminaires romains.
Alors vous parlez de l'ouverture, vous avez dit l'archéologie, est-ce que c'est cette archéologie et cet amour de l'archéologie qui va l'amener à faire des recherches pour trouver la tombe de Saint-Pierre?
Ben oui, on peut le penser, et on voit que de très jeune, il aimait à aller visiter les catacombes en compagnie d'un de ses professeurs. Donc oui, il y a chez Pacelli un une grande curiosité pour la science, pour les découvertes scientifiques. Il pense qu'au fond, la science, la vérité scientifique ne peut que conforter la vérité de la foi, la vérité chrétienne, au fond.
Et une sorte de modernisme tout de même, finalement, chez Pie XII, non ?
Modernisme, j'hésiterai à employer ce nom parce que il se méfiera de certains nouveaux écrits qui rencontraient un grand succès parmi les étudiants, comme les écrits de Loisy, par exemple, en exégèse. Donc, il reste malgré tout très attaché à la défense de l'orthodoxie catholique, mais une ouverture d'esprit, certainement, une curiosité. C'est un homme de son temps. Et il sera aussi marqué par, évidemment, tout l'enseignement social de Léon XIII. Pensons à la fameuse encyclique « Rerum Novarum » de 1891, et en cela on peut dire d'une certaine façon que Eugenio Pacelli est un fils spirituel de Léon XIII.
Alors venons-en à sa carrière. Il est prêtre, comme nous le disions, à 23 ans, et il entre à la secrétairie d'État. Très jeune, finalement.
Oui, il entre en 1901 à la secrétaire d'État. Il n'a pas encore terminé ses études à l'Apollinaire. Il est repéré très tôt comme un brillant sujet, et c'est le cardinal Gaspari qui vient le chercher et qui donc l'introduit dans la prestigieuse Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires, qui était à l'époque une espèce de ministère des Affaires étrangères du Saint-Siège, en tout cas la voie royale pour faire carrière dans l'appareil curial. Et donc il entre en 1901 à la secrétaire d'État, et il le suivra donc, il gravira tous les échelons de la Congrégation pour les Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires, dont il deviendra le chef en 1914, le secrétaire, avant d'être envoyé comme nonce en Allemagne. Donc une carrière assez classique, brillante, fulgurante même, sous le très très bon de grande estime réciproque, et Gaspard n'hésitera pas à dire que de Pacelli, que c'était son meilleur collaborateur, c'était l'un des meilleurs, sinon le meilleur diplomate du Saint-Siège. Mais comme on le verra, dans les années 20, me semble-t-il, les rapports entre les deux hommes vont quelque peu se détériorer. Peut-être que Gaspari, alors, qui était alors devenu secrétaire d'État, voyait peut-être en Pacelli un rival, ou quelqu'un qui, le jour venu, pourrait peut-être lui succéder. Toujours être plus qu'en Gaspari.
Alors avant la Première Guerre, il va être confronté à plusieurs dossiers, on suppose, notamment le dossier fumant, si l'on peut dire, de la séparation de l'Église et de l'État en France. Alors justement, cette séparation, est-ce qu'elle constitue un grand débat au sein de l'Église ? Est-ce une option à contre-cœur, ou bien la voit-on comme une bonne option pour la place de l'Église en France ?
Bon, je crois qu'il faut dire très clairement que le Saint-Siège ne souhaitait pas la rupture du Concordat, qu'il aurait souhaité le maintien du Concordat napoléonien de 1800, et que tous les documents le montrent. Mais qu'à partir du moment où les choses étant devenues ce qu'elles étaient, à la suite notamment aussi de la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, la loi de séparation a été votée en 1905, je crois que le Saint-Siège s'en est parfaitement accommodé, même s'il a tenu à faire savoir qu'il n'était pour rien dans la rupture du Concordat et que cette décision était un acte unilatéral du gouvernement français. Mais dès cette période, on voit bien dans les documents de la secrétaire d'État, au moins dans la position d'un Gaspari et même d'un Pacelli, qu'au fond, on a aucune forme de prévention, de aucune objection à une politique, disons, de séparation entre l'Église et de l'État, une politique qui garantirait, au fond, la liberté de l'Église, notamment en matière de nomination épiscopale, et c'est ce qui est, au fond, advenu en France. Il est intéressant de noter à ce propos que lorsqu'il aura à négocier avec les diplomates soviétiques dans les années 20 à Berlin, Pacelli se référera à l'exemple français de cette politique de séparation qui, selon lui, était un succès pour dire aux soviétiques, au fond, pourquoi ne faites-vous pas la même chose ? N'accordez-vous pas aussi les mêmes droits à l'Église catholique sur le modèle de la France ? Donc, pourquoi ne faites-vous pas une loi de séparation entre l'Église et l'État ? Donc c'est un bon modèle. Donc l'option séparatiste n'est pas forcément a priori une mauvaise option, même si l'option qui sera choisi, défendu tout au long de cette période et jusqu'au fond à l'élection de Pie XII, c'est l'option concordataire, qui consiste au fond à négocier avec un État un accord garantissant les droits de l'Église dans cet État, dans l'État en question.
Cette question concordataire, nous allons y revenir après une petite pause.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne. Les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio Canal Académie.
Alors, vous êtes à l'écoute de Radio Canal Académie. Un jour dans l'histoire reçoit Philippe Cheneau. Philippe Cheneau est professeur d'histoire de l'Église moderne et contemporaine à l'Université du Latran. Et il est également l'auteur d'une biographie de Pie XII parue en 2003, intitulée Pie XII, diplomate et pasteur aux éditions du CERN. Nous étudions toute la période antérieure à l'élection de Pie XII, cardinal.
Bon, Benoît XV donc est élu au pontificat au début septembre de 1914. Donc il lui appartient au fond de définir la position du Saint-Siège dans le conflit, ce que n'avait pas pu ou pas eu le temps de faire son prédécesseur. Et il me semble que cette position va s'organiser autour de deux grandes idées. La première, c'est que le Saint-Siège ne peut pas prendre parti dans la guerre. Donc Benoît XV est en cela sous l'influence du cardinal Gaspard et qui va devenir donc son secrétaire d'État, va réaffirmer de manière très forte, très solennelle, l'impossibilité du Saint-Siège, du pape comme père de tous les croyants, de prendre parti dans un conflit où finalement les catholiques sont répartis de manière assez égale dans les deux camps. Donc c'est la première idée, le premier principe. Le second principe, c'est que Benoît XV, qui est l'héritier au fond de Léon XIII, qu'il avait servi fidèlement, hein, il avait été l'un des principaux collaborateurs de Léon XIII, qu'il avait aidé à mettre en œuvre sa grande politique, sa grande diplomatie, donc à la fin du XIXe, va estimer qu'il était du rôle du pape, de la papauté, de prendre des initiatives au niveau diplomatique pour faire cesser le conflit, pour arrêter cette boucherie, comme dira Benoît XV, cette horrible tragédie qui a été la Première Guerre mondiale. Et donc il va, lorsque après 3 ans de guerre, les circonstances sembleront favorables, il va envoyer Eugenio Pacelli, qui était donc à l'époque secrétaire de la fameuse congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaire, il va l'envoyer en Allemagne pour préparer le terrain à sa grande initiative de paix du 1er août 1917. Pacelli étant considéré comme l'homme le meilleur diplomate du Saint-Siège, donc l'homme le mieux à même de sonder les Allemands en vue de cette grande initiative de paix.
Il y a eu une première mission d'abord en Autriche.
Oui, il a été une première fois envoyé en janvier 1915 auprès de l'empereur d'Autriche pour tenter d'arracher au gouvernement autrichien des concessions territoriales qui auraient permis d'éviter l'Allemagne, et aussi l'empereur Guillaume II, lors d'un entretien mémorable qu'il décrira longuement dans un long rapport envoyé à Rome, donc à la fin juin 1917.
On ne voit pas là les limites de la papauté finalement.
Oui, sans doute. Et je crois que cette expérience... l'expérience de cet échec cuisant au niveau politique, en tout cas de la diplomatie vaticane pendant la Première Guerre mondiale, a fortement pesé sur les choix qui ont été ceux de Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'aurais tendance à dire, et je le dis d'ailleurs dans mon livre, qu'il a voulu à tout prix éviter de commettre les mêmes erreurs que son prédécesseur. Donc s'il a repris à son compte la ligne de l'impartialité, parce qu'au fond il n'y en avait pas d'autre possible, le Saint-Siège dans le conflit ne peut pas prendre parti, Il a, par contre, voulu éviter de tenter une grande initiative, de lancer une grande initiative diplomatique qui n'aurait pas abouti et qui aurait conduit au même échec que celle qu'avait prise Benoît XV durant la Première Guerre mondiale. Donc, à partir de 1940, Pie XII renoncera à toute initiative diplomatique et il me semble que c'est la leçon qu'il tire à ce moment-là des échecs de son prédécesseur durant la Première Guerre mondiale.
Alors, c'est toujours pendant cette Première Guerre mondiale qu'il est nommé nonce apostolique en Bavière.
Oui, il est nommé, il est envoyé à Munich en mai 1917. C'est un poste stratégique, donc, qui lui permettait d'aller à Berlin pour rencontrer les autorités allemandes.
C'est un marchepied vers Berlin, mais on est étonné, finalement, d'avoir un nonce, un 12,
en Bavière. Non, je crois pas qu'on peut l'accuser de mener séparatiste. Il avait sans doute eu des sympathies pour les catholiques bavarois qui voulait au fond défendre une autonomie maximale dans le cadre, je crois quand même tout de même du Reich allemand. Mais il avait sans doute une sympathie pour ces tendances-là et les hommes politiques qui les représentaient, notamment les dirigeants du Parti populaire bavarois, qui étaient tout de même assez conservateurs.
C'est à cette époque donc qu'interviennent les deux concordats, d'abord le concordat avec la Bavière et puis ensuite un concordat avec la Prusse.
Oui, donc il va négocier deux concordats, il aurait souhaité en négocier un troisième, le plus important, c'est-à-dire un concordat cadre avec le Reich, avec l'Allemagne.
Et c'est un échec.
Et ça a été un échec parce qu'il n'a pas réussi à convaincre les dirigeants allemands, les gouvernements successifs de la nécessité de ce concordat, peut-être aussi parce que les exigences du Saint-Siège dont il se fait donc l'interprète était trop élevé, notamment en matière de droit scolaire, d'enseignement religieux à l'école. Il n'y avait pas de majorité au Reichstag dans les années 20 pour voter un tel concordat qui aurait été trop favorable à l'Église catholique. Mais malgré tout, il parvient à ses fins en Bavière. Il négocie et signe ce fameux concordat avec la Bavière en 1924. Qui est très favorable à l'Église, et un autre concordat avec la Prusse, qui l'est beaucoup moins, évidemment, en 1929. Et il y en aura un troisième qu'il avait amorcé, qui sera signé en 1932 avec le Pays de Bade, et tout ça prépare le Reich Concordat de juillet 33 avec le gouvernement de Hitler. Mmh. L'important, dans les années 20 et 30, sous le pontificat de Pie XI, et sous l'impulsion du cardinal Gasparri comme secrétaire d'État, et aussi de Eugenio Pacelli, c'est au fond la ligne dominante du Saint-Siège, de la politique vaticane, c'est celle-là, essayer d'arracher des accords concordataires aux principaux, à tous les États, accords garantissant les droits de l'Église dans ces pays et permettant au besoin, donnant au besoin à l'Église une base juridique de défense, notamment face à des États qui deviendra des
États, donc à la place de Gasparri, c'est bien cela?
Oui, donc il devient le numéro 2, le chef de la diplomatie vaticane. Il succède à son mentor, le cardinal Gasparri, en février 1930.
Et vous dites que c'est finalement la période la moins connue, ces années 30, alors que c'est au cours de cette période qu'il a exercé toutes ses qualités qui lui ont permis d'être élu pape si rapidement, puisque je le rappelle qu'il a été élu en moins de 24 heures et après trois tours de scrutin.
Oui, je dis que c'est la moins connue parce que, enfin, on a écrit beaucoup de choses sur les années 30, sur la élu pape sous le nom de Pie XII le 2 mars 1939, après trois tours seulement de scrutin. Donc j'insiste sur ce point, c'est bien le secrétaire d'État de Pie XI qu'on a élu. Donc c'est un homme qui était en charge de la politique vaticane dans les années 30 et qu'on considérait comme le mieux à même pour conduire l'Église dans la période pour le moins tourmentée qui s'annonçait.
Alors il y a un avant 1933 et un après 1933, l'arrivée donc d'Hitler au pouvoir. Quelle est la position de Pacelli et au-delà de l'Église par rapport à cette montée du nazisme?
C'est un chapitre très, très compliqué. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que Pacelli, comme nonce à Munich, avait assisté en direct, si j'ose dire, au coup d'État manqué de Hitler en 1923 à la brasserie de Munich. Et on trouve des télégrammes qu'il envoie à Rome où il décrit la situation. Et donc, il était très conscient aussi de la montée des extrêmes dans l'Allemagne de Weimar et notamment de l'extrême droite, de ce nationalisme extrême, national-socialisme. Et donc, lorsque les nazis arrivent au pouvoir, il est à la fois atterré de ce qui le Saint-Siège obtient, ce qu'il n'avait pas réussi à obtenir en 10 ans sous la République de Weimar avec Pacelli comme nonce en Allemagne.
Les détracteurs de Pie XII diront qu'il a été dans ce cas le jouet d'Hitler, n'est-ce pas un raccourci historique ?
Oui, c'est sans doute un raccourci historique. Et d'ailleurs, sitôt le concordat signé, la propagande nazie s'efforcera de présenter de ce concordat comme une reconnaissance au fond du gouvernement du nazisme, du gouvernement nazi, de l'idéologie national-socialiste.
Alors que
le Pacelli fera publier un article dans l'Osservatore Romano pour dire que le concordat n'était en rien une approbation à la ligne politique idéologique du gouvernement allemand. Et il dira plus tard, je crois à l'ambassadeur, à un diplomate britannique, qu'il avait au fond signé ce concordat, un pistolet braqué sur la tempe, donc pour dire qu'il n'avait au fond pas eu le choix. Si les documents montrent qu'au fond, Pie XI, donc le pape, était peut-être plus réticent. Il aurait souhaité peut-être qu'on prenne plus de temps pour voir venir les choses et pour signer ce concordat.
Pie XI est plus pro-allemand en quelque sorte.
Pro-allemand, je ne sais pas, mais disons que lorsque Hitler arrive dans les premiers mois du nazisme, il a cru voir en Hitler un allié possible pour combattre le bolchevisme. Il a accueilli très positivement les premières déclarations de Hitler, disant qu'il fallait défendre la chrétienté contre le danger bolchevique. Et donc, il a été très séduit par Hitler au début, alors que Pacelli est peut-être plus réservé parce qu'il connaît mieux aussi la situation allemande et il sait mieux au fond à qui il a affaire. Le personnage de Hitler, il le connaît mieux sans doute que Pie XI.
Oui, le jour où il arrive au pouvoir, il dit que c'est une chose terrible, c'est pire qu'une victoire de la gauche socialiste.
Oui, dans sa bouche, c'est pas peu dire, hein, puisqu'il avait aussi vécu la révolution spartakiste à Munich à la fin de la guerre.
Oui, il est très sec, vous racontez une anecdote en 1931, alors que les évêques tirent la sonnette d'alarme, si je puis m'exprimer ainsi, sur le danger nazi, Göring est envoyé à Rome et Pacelli refuse de le recevoir.
Oui, le Vatican ne voulait pas se compromettre. Et d'ailleurs, la hiérarchie allemande, les évêques allemands ont publié dans cette même période, donc qui précède immédiatement l'arrivée des nazis au pouvoir, ont publié des condamnations pesantes, lourdes du nazisme. Donc on est très conscient, au fond, du danger, du caractère profondément hérétique, au fond, du national-socialisme.
Sur le plan des relations internationales, il accorde une importance visiblement à l'alliance franco-italienne de 1935.
Oui, je crois que c'était une des constantes de la diplomatie vaticane, hein. L'idée d'une alliance entre les deux sœurs latines, catholiques, et je crois qu'il y a un dessin stratégique qui court là tout au long de cette période et que, me semble-t-il, Pie XII fera en partie sien. C'est l'idée qu'au fond, toutes les nations catholiques de l'Europe doivent s'unir et constituer une espèce de bloc catholique latin. Hein. On retrouve cette idée-là et autour de l'alliance franco-italienne. Et donc, lorsqu'en 1935, Laval est reçu au Vatican et qu'il signe un accord avec l'Italie, eh bien, on est très content au Vatican. On a l'impression véritablement que la politique européenne va s'engager, va s'orienter dans un sens conforme aux intérêts de l'Église.
Alors, les trois sujets qu'ils évoquent lors de cette rencontre, ce sont trois sujets allemands, vous les citez, l'Anschluss, le plébiscite de la Sarre, et enfin, la situation religieuse de l'Allemagne. C'est dire qu'il y a une conscience de ce danger allemand. Je ferai juste une parenthèse. Vous montrez également un pape voyageur, parce qu'il va en France, justement, il parle de ces points. Vous le mettez même en précurseur, en quelque sorte, des voyages du pape de Jean-Paul II.
Oui, pourquoi pas. On dit que Paul VI, en quelque sorte, a inventé les voyages au début de son pontificat, et que Jean-Paul II s'est inscrit dans cette tradition, l'a développé avec l'écho que l'on sait. Mais j'ai voulu montrer au fond que Eugenio Pacelli, secrétaire d'État de Pie XI, déjà dans les années 30, a effectué plusieurs voyages qui, d'une certaine façon, annoncent déjà les voyages apostoliques de Paul VI et de Jean-Paul II. Effectivement, il va se rendre deux fois en France, à Lourdes d'abord, puis à Lisieux et Paris. Il va se rendre en Amérique latine en 1934, aux États-Unis. Un voyage important
pour la suite qui avait un caractère des idées qu'il était assez complaisant à l'égard des nazis. Il se fait tout de suite rappeler à l'ordre.
Oui, c'est l'ordre de l'Anschluss au lendemain de l'arrivée de l'annexion
en
de
1938,
oui. Où il accueille Hitler, il a une déclaration d'adhésion au régime, il est immédiatement convoqué à Rome où il doit publier une rétractation dans l'Osservatore.
Immédiate. Alors intervient précisément la mort de Pie XI et l'élection de Pie XII. Il y a une similitude quasiment extraordinaire. Benoît XV est élu l'année du déclenchement de la Première Guerre mondiale et Pie XII est élu également.
Oui, c'est une nouvelle conférence de Munich à 5 qui aurait permis de faire des concessions qui auraient permis peut-être d'éviter la guerre.
Donc Pie XII est élu. La guerre éclate. Quelle est désormais la position du Saint-Siège? Est-ce qu'il choisit une voie diplomatique? Est-ce qu'il choisit la voie de l'impartialité dans ce
conflit? Je l'ai dit, il va très clairement réaffirmer l'impartialité du Saint-Siège dans le conflit. Dans un premier temps, il va donc tenter à nouveau de maintenir l'Italie en dehors du conflit. Fin décembre 1939, le pape se rend au Quirinal, c'est quand même un événement assez extraordinaire, et rend visite au souverain italien, et il fait un discours pour montrer qu'il appuie pleinement la position qui a été celle du gouvernement italien de rester en dehors du conflit. Mais là encore, ça va être un échec, puisque Mussolini va entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne en juin 1940. Et à partir de là, à partir de juin 40, donc de la défaite française, lorsque l'Allemagne étend son empire, sa domination pratiquement sur tout le continent, comme je l'ai dit tout à l'heure, Pie XII va comprendre qu'il ne sert à plus rien de tenter quoi que ce soit. Donc il va se replier, si j'ose dire, sur ses radio-messages, puisque depuis le début de la guerre, il avait pris l'habitude d'adresser au monde ses fameux radio-messages de Noël. Et donc, il va se projeter dans l'après-guerre, dès le début de la guerre, pour, au fond, indiquer quels devraient être les grands principes qui devraient présider à la réorganisation de l'Europe au lendemain de la guerre.
D'or, et est-ce que finalement, Pie XII n'a pas agi derrière en travaillant pour protéger les catholiques et pour protéger les juifs plutôt qu'une condamnation qui serait publique et qui mettrait en danger et les catholiques et les juifs?
Oui, je pense que en gros, ça a été sa position.
Il y a l'épisode de la Hollande.
La Hollande qui l'a fortement marqué, du moins si l'on en croit le témoignage de la sœur Pascalina, qui était sa gouvernante.
Que s'est-il passé?
Et qui raconte que, publiquement, contre les déportations massives des Juifs, et en guise de représailles, la police allemande a immédiatement décidé de déporter non seulement les Juifs, mais également les catholiques d'origine juive, donc les juifs convertis.
La fameuse Edith Stein.
Et dont Edith Stein, qui, comme on le sait, avait trouvé refuge dans un couvent, un Carmel, en Hollande, et qui a été déportée au début août 1942, et avec sa sœur, et qui est morte en déportation à Auschwitz. Donc c'est un témoignage crucial qui montre qu'à un moment donné, un moment crucial de l'été 1942, lorsque se pose véritablement la question d'une intervention publique du pape pour dénoncer la politique nazie, le pape a compris qu'il valait peut-être mieux garder un certain silence, parce qu'il y a tout de même le radio-message de 1942 où il y a une allusion tout de même assez claire à la politique d'extermination. Le terme d'ailleurs d'extermination figure dans le radio-message de Noël 42.
Oui, ce passage avait été coupé, je crois, du film de Costa.
L'exemple hollandais où l'on voit que les évêques ont protesté et pratiquement tous les juifs ont été déportés, exterminés, Et il y a le cas de Rome, où donc à partir de septembre 43, Rome est occupée par les Allemands. Et donc le 16 octobre 1943, les Allemands entrent dans le ghetto de Rome et procèdent à des arrestations massives. Et le Saint-Siège, à ce moment-là, ne va pas protester, va simplement émettre une menace de protestation. L'ambassadeur d'Allemagne est convoqué au Saint-Siège. Malgré tout, environ un millier de juifs romains seront déportés, mais la plus grande partie de la communauté juive de Rome sera sauvée. Donc le pape n'a rien dit, mais les juifs ont été sauvés, alors que les évêques allemands, hollandais avaient protesté et tous les juifs ont été déportés et exterminés. Ils le seront comment? Eh bien, la plupart trouveront asile dans les nombreux instituts, couvents, maisons religieuses de Rome, qui vont largement s'ouvrir à ce moment-là et qui bénéficieront d'une certaine immunité qui sera, oui, et que le pape n'a pas voulu mettre en péril par des prises de parole ou des protestations trop claires, enfin, qui auraient entraîné ou risqué d'entraîner des représailles allemandes.
Vous comparez cette action avec celle de la Croix-Rouge?
Oui, parce qu'à un moment donné, la question s'est posée aussi pour la Croix-Rouge. Et la question a fait l'objet aussi de plusieurs études sur la base des archives. Et on voit très bien que les dirigeants de la Croix-Rouge ont aussi fait le choix du silence. Et le président de la Confédération helvétique aurait dit à ce moment-là, le bon samaritain ne sort de son silence que par des actes. Donc il s'agissait donc d'abord d'agir et pas tant de ce qui se passait qui aurait justifié une intervention qui aurait pu avoir des conséquences très graves pour l'ensemble des catholiques et notamment pour les catholiques allemands. Et je crois que c'est un des éléments, ce n'est pas le seul ni le principal, mais c'est un des éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi le pape s'en est tenu à cette réserve dont je parlais tout à l'heure.
Alors il y a un autre aspect, nous allons terminer sur ce point. En 1942, vous parlez d'un pape mystique, c'est l'année de la consécration.
Oui, je crois que précisément dans ce contexte tragique d'entrée claire à la conversion de la Russie et la Vierge demande que le pape consacre au fond le genre humain et la Russie en particulier au cœur immaculé de la Vierge, et c'est ce que fera le pape en 1942, donc consacrant le genre humain, l'humanité tout entière dans cette période tragique, donc au plus profond de cette tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Il s'en remet à la Vierge d'une certaine façon, et j'insiste beaucoup sur l'importance de la piété mariale de Pie XII, qui en 1950 le conduira à proclamer le dogme de l'Assomption.
Est-ce que Pie XII gardera malgré tout une part de secret? Est-ce qu'il y aura des questions auxquelles...
Ah oui, je ne
répondre.
Prétends absolument pas avoir clos le dossier par cette biographie. J'espère simplement avoir apporté de nouveaux éléments d'intelligibilité qui permettront peut-être de comprendre un peu mieux pourquoi il a agi de cette façon durant la Seconde Guerre mondiale. Mais je crois néanmoins qu'il restera toujours une part qui sera cachée, soustraite à l'historien, et qui est la part de son intériorité, de sa vie intime, personnelle.
Philippe Chenot, je vous remercie beaucoup. Je
Merci
rappelle que
vous
êtes professeur d'histoire de l'Église moderne et contemporaine à l'Université du Latran à Rome. Donc, merci d'être venu de si loin, et que vous êtes l'auteur donc d'une biographie de Pie XII intitulée Pie XII, diplomate et pasteur, aux éditions du Cerf. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.